Bonjour à vous, mon nom est Corinne Touga, je suis votre animatrice dans le cadre de ce podcast qui est La vie maraîchère. C'est le balado du Jardin des Funambules. Notre mission, c'est de partager les dessous de la vie maraîchère pour participer au mieux-être fermier et faire connaître notre réalité un petit peu plus. Bienvenue à cet épisode. L'épisode d'aujourd'hui, c'est un épisode spécial. C'est une collaboration avec Ghislain Jutras. C'est lui que je présente à l'épisode 4. Si jamais vous voulez en entendre parler un petit peu plus, en fait, c'est un personnage définitivement incontournable du maraîchage biologique au Québec. Donc, je vous propose d'aller le découvrir à l'épisode 4. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vous présente un écho de son Odyssée bio. C'est une chronique qui nous a fait parvenir où est-ce qu'il trace un petit peu l'historique des paniers biologiques au Québec. Donc, la personne présentée aujourd'hui, la personne en entrevue, c'est Robert Saint-Arnaud. Il est en fait l'initiateur des jardins bio Campanipole qui sont situés à Batiscan, ça c'est tout près de Québec. Et c'est peu dire dire que Robert est un pionnier en fait. C'est définitivement un pionnier puisque ça fait 30 ans qu'il fait des paniers biologiques. Il en faisait en fait à l'époque où tout le monde trouvait ça très farfelu, alors que maintenant c'est plus la norme que l'exception. Donc, on le remercie en fait d'avoir initié cette idée farfelue qui n'en est plus une et d'avoir bien voulu partager avec nous un petit brin de son histoire en fait, de ce qu'il a pu vivre en tant que pionnier. Donc, je vais céder la parole à ces deux personnages marquants de la vie maraîchère. Donc, voilà, bonne écoute à vous.
Salut Robert, ça va bien?
Oui, ça va bien. Toi, Ghislain?
Très bien.
C'est bon.
Donc Robert, t'es dans les premiers à avoir fait des pas juste du maraîchage biologique, mais aussi la mise en marché sous la forme des paniers bio. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette époque-là, quand les premiers paniers bio se sont... est apparu comme un mode de mise en marché au Québec. Qu'est-ce que tu te souviens de ça? Qu'est-ce qui t'avait attiré?
Bon, qu'est-ce qui m'a attiré? Dans une formation, justement, là, qu'au CIA Rive-Nord donnait, à un moment donné, il y a eu un petit vidéo, je ne sais plus, un petit reportage quoi, qu'on nous a passé. Là. Il n'y avait pas d'ordi en ce temps-là. Mais en tout cas, où il parlait de cette forme de mise en marché-là qui est quelque part en Europe. Parce que moi, j'ai trouvé que c'était une idée intéressante. Et c'est à partir de là que je me suis dit, on va développer la ferme en faisant des paniers là-dessus. Bon, il y avait eu aussi quelques livres écrits aux États-Unis là-dessus, là. Entre autres celui de Trugger Grow. Je me souviens pas du titre, là, mais lui, ça m'a inspiré aussi là, pour aller là-dedans. Mais c'est une formule qui s'est développée en Europe, aux États-Unis. Je pense qu'il est originaire du Japon au départ. C'est qu'on voyait, je voyais ça comme une façon de partir et de pas être obligé d'investir trop au départ. Par contre, avec les années, je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement... aussi vrai que je le pensais au départ, il faut avoir un minimum d'investissement puis capacité de production pour arriver à faire de quoi, là.
Mais le fait que les gens payaient d'avance au début de la saison, ouais, ben, ça t'attirait à ce moment-là?
Oui, ça m'attirait, mais tu sais, c'est vendre l'idée quand c'est pas été... quand t'es tout seul pour la vendre. Il y avait quelques fermes qui faisaient des paniers aussi à ce moment-là. Ils étaient très peu nombreuses, là. Mais je veux dire... t'allais dire aux gens, bon, ben faites-moi confiance, payez-moi d'avance les légumes que je vous livrerai en plein air durant tout l'été. Je veux dire, à part être un martien hiver, tu pouvais pas plus être à côté de la traque que ça. D'accord? Parce que c'était très difficile de... Tu sais, il y a eu des gens qui sont engagés les premières années. Là. On est parti avec 10-12 paniers. Là, c'est sûr, on n'avait pas une capacité de production très développée non plus. Mais l'idée était difficile à vendre. Parce que on était des gens qui allaient en bénéficier et qui le vendaient. Où on a eu un bon coup de pouce dans le développement de la clientèle, c'est quand Équiterre qui était pas qui s'appelait autrement dans le temps.
Écide.
Écide, là. a adhéré à ça et a fait de la publicité. Là, il y a eu des la publicité mise là-dedans, de l'information du public en général, etc. Et là, il y avait des gens qui ne faisaient que ça là-bas. C'était pas, les autres ne produisaient pas, mais ils faisaient ça. Parce que ça a fait connaître le concept quand même. On a senti une différence à partir du moment où il y a eu Équiterre dans le portrait et l'information qui était mieux développée. Là.
Au milieu des années 90.
Au milieu des années 90, c'est arrivé dans le décor. On avait 2 ou 3 ans de fait. Nous, on a commencé nos premiers paniers en 92. Puis c'est 95, je pense, que Équiterre s'est impliqué. Puis là, on s'est mis à avoir. Là, on arrivait à avoir plus facilement là, plus de monde qui était intéressé au panier qu'est-ce qu'on arrivait avant à avoir. Puis la formule était intéressante pour des producteurs. Elle peut être intéressante aussi. Elle pouvait être intéressante aussi pour les grands. Mais c'était vraiment tellement en dehors de la conception habituelle de s'alimenter que c'était difficile de faire comprendre. Puis nous, on est des producteurs, on n'est pas des gens de communication. T'sais, on est capable de communiquer, mais je veux dire, on n'est pas à 100% à faire de la communication. Sinon, on n'a pas le temps de produire. Là, parce que ça a quand même permis un bon développement.
En 92, lorsque, avec Campagne Paul, vous avez commencé à faire vos premiers paniers. Combien de paniers, justement, aviez-vous de clients, d'abonnés?
Je pense que c'est 12. Mais je ne suis même pas sûr. Là, faudrait,
une douzaine.
Une douzaine. C'était pas en haut de 15, en tout cas.
Puis c'était du monde...
Moi, c'était du monde de Montréal.
Ah, de Montréal, donc parce que produisais ça à Batiscan.
Mais moi, je travaillais encore en développement international à ce moment-là. J'avais un bureau à Montréal. Puis ma clientèle, qui les gens qui ont embarqué premiers, c'était des gens que je connaissais autour de, tu sais, des amis, des partenaires d'affaires en international et tout, là. C'est là que ça a commencé, là. Parce que moi, je livrais à Montréal. L'été, je travaillais, moi, en international, mais mes clients étaient là parce que je livrais à Montréal.
Puis comment ça a évolué d'année en année en termes de nombre de paniers, de localisation de la clientèle?
Bon, on était à Montréal on était allé à Québec en 97, si j'ai bonne mémoire, qu'on a commencé à Québec. Tu vas dire, il y a Trois-Rivières à côté, mais Trois-Rivières, on trouvait pas de point d'ancrage, on trouvait pas personne.
Il y avait pas de demande
à Trois-Rivières. Il y avait pas de demande, il y avait pas d'intérêt à ce moment-là.
De 92 à 97, c'était surtout Montréal.
Après ça, 97. Trois-Rivières est venu aussi à quelques années après, là. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut que tu trouves... quelques personnes intéressées pour t'aider à chose. Même la publicité d'Équiterre, tu sais, nous aidait pas à Trois-Rivières. On a eu des demandes de Québec avant d'en avoir de Trois-Rivières. Parce que, mais c'était Montréal, 4, 5, 6 ans, là. Mais là, à Montréal, aussi, Équiterre avait un impact beaucoup plus important à Montréal, dans la région de Montréal, qu'ailleurs au Québec, parce qu'ils fonctionnaient à partir de Montréal. Eux autres aussi n'avaient pas des moyens limités, là, parce que c'était sûr que la population de Montréal était plus informée que celle de Québec ou de Trois-Rivières au début, parce qu'on a développé là. Et après ça, à un moment donné, on a eu un contact à Québec qui était intéressé. À partir de là, on a développé à Québec, puis Trois-Rivières est venu quelques années après. Mais on n'est pas, jusqu'à date, on n'est pas capable d'avoir tous les paniers. On n'est pas capable de laisser Québec pour aller juste à Trois-Rivières. On n'a pas assez de monde, on n'a pas assez de demande. Mais il y a d'autres fermes aussi qui font à Trois-Rivières. C'est correct, c'est normal. Là, mais c'est sûr qu'on a on aimerait bien avoir tous nos paniers à Trois-Rivières. Mais Montréal, on a abandonné. Quand on a eu assez de monde à Québec, puis Trois-Rivières embarqué, on a laissé Montréal parce que c'est beaucoup de temps de déplacement. Là. Ça commence, ça devenait. C'était pas encore. On parlait pas encore de dérèglement climatique à ce moment-là, puis de gaz à effet de serre. Là. On a laissé Montréal avant, je pense que c'était en 2000 ou en 99. Là. Ça se parlait, mais c'était pas connu comme aujourd'hui. Mais ça devenait difficile de justifier alors qu'on avait d'aller à Montréal, aller-retour, ça nous prenait 2 heures, 2 heures et demie aller, de distribuer nos paniers, 2 heures, 2 heures et demie revenir, alors que Québec est à 1 heure d'aller, 1 heure retour. Là. Parce qu'on avait laissé Montréal. On avait des clients là, qui étaient là depuis le début à Montréal. Là. Ça n'a pas été facile. On avait même des enfants de nos premiers clients qui étaient avec nous. Non, ça nous a fait de quoi, mais là, il fallait être être logique en termes de, d'environnement puis en termes de, économique. Là. Veux pas, t'as beau... ça a beau être les paniers, il y a une idée de solidarité là-dedans, mais il reste aussi qu'il y a des réalités économiques qu'il faut rencontrer. Puis on abandonne, les gens de Montréal pouvaient se trouver aussi d'autres fermes, là, parce que la concentration des fermes était autour de Montréal, et l'est toujours, alors que dans la région de Québec, à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de fermes qui fournissaient des paniers. Depuis ce temps-là, ça a changé, puis c'est normal, mais je veux dire, on avait de la demande énormément dans la région de Québec.
À travers toutes les années où vous avez fait des paniers, puis en fait, Campagne Paul continue à faire des paniers. Donc, de la première année en 92 avec une douzaine de paniers livrés à Montréal, c'est rendu... ça ressemble à quoi aujourd'hui, Campagne Paul?
Aujourd'hui, en l'année 2019-2020, on a fait 460 paniers d'été là, durant 21 semaines l'été de, en 2019. On fait 68 c'est-à-dire paniers d'hiver. Là. Paniers d'hiver, ça fait seulement 2 ans qu'on met ça en place à la ferme. C'est nouveau, là, puis on est en train de développer notre expertise là-dedans avec toutes les limites qu'on a actuellement. Là.
Des paniers aux 2 semaines?
Oui, 2 semaines l'hiver, oui. Puis ça, c'est là où on en est. On continue, nous autres, à... C'est toujours le panier qui est notre chose. Mais entre le début puis maintenant, il y a eu quand même au début, très lentement, la croissance du nombre de paniers. Comme je mentionnais, à partir du moment qu'Équitaire est arrivé en place, on a senti quand même une demande qui croissait, surtout dans la région de Montréal, où on était à ce moment-là. Ce qui a fait que rapidement, on a atteint 100 de paniers, là. Peut-être, je pourrais pas nommer l'année exacte, j'ai plus ça en tête, là, mais ça nous a permis de doubler, tripler notre clientèle assez rapidement. Puis ensuite, la connaissance s'est développée vers Québec, puis ailleurs en région. On a quand même été à Québec, et là, on est allé assez rapidement à 200, puis on est monté à 300, là, ça a pas été... c'était assez rapide. On a eu, à un moment donné, une montée assez rapide. Là.
Dans quelles années, ça?
Fin des années 90, début 2000, là, je dirais. Ça aussi, il faudrait que je fouille dans mes papiers, puis je sais même plus si les papiers existent encore. Mais on est... Puis à un moment donné, on a atteint 400, mais on était vraiment... Nos locaux ne permettaient pas de faire ça facilement. Il y avait un stress énorme chez tout le monde.
À faire 400 paniers là, au milieu des années 2000, peut-être?
Peut-être même pas, je ne sais pas, là, dans ces années-là, en tout cas. Et puis là, on s'est réduit d'une 50aine de paniers pour ôter de la pression sur tout le monde. Puis après ça, ben là, depuis 3 ans, on a une nouvelle construction, que là, on a de l'espace à travailler, c'est plus une limitation, là. Mais à un moment donné, tu sais, quand tu es obligé de déplacer un panier pour en mettre un autre, puis tu n'as plus de place, puis tu es à côté, tu rentres dans la partie réservée au lavage pour faire tes paniers, là, quelque chose qui ne marche pas.
Puis pour la saison 2020, combien de paniers envisagez-vous?
On va vers 475, je pense, pour les paniers
d'été.
D'été. Puis on peut aller un peu plus haut, ça va dépendre de la demande. Et panier d'hiver, on va rester sensiblement la même chose. On ne sent pas un engouement encore dans la région de Trois-Rivières. Panier d'hiver, c'est concentré à la ferme et dans la région de Trois-Rivières. On ne sent pas une demande. Là. On n'a pas atteint tout à fait notre cible pour 2019-20. Qui était de 75, parce que on va regarder la même cible probablement pour l'autre année, à moins qu'on va voir les commentaires. Si les commentaires des gens sont bons, etc., puis ça peut-être stimuler une demande, on verra ça. Là.
Les paniers d'hiver, c'est de quelle date à quelle date?
Nous, on termine les paniers d'été fin octobre, début novembre, ça dépend... des gels à ce moment-là. Là. Mais puis on recommence la 3e semaine de novembre, le panier d'hiver, et on termine la dernière semaine de février ou avant-dernière semaine de février. Là. On fait 7 livraisons, en fait, là, d'un moment à l'autre dans ces moments-là. Puis, bon, ça, c'est l'évolution des paniers.
Tu as mentionné un des points tournants dans l'évolution... de la mise en marché sous forme de l'ASC, donc les paniers bio. l'arrivée d'équitaires à l'époque Hayseed, donc en 95 avec la ferme Quatre des Roussels qui faisait un projet pilote. Et puis, donc vous aviez commencé à 92, trois ans auparavant, avec la médiatisation offerte par Équiterre, ben vous avez senti là, que ça a été un point tournant. Ça a permis de vendre plus facilement oui. les paniers à Montréal, région où vous étiez. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments ou points tournants ou freins même ou moments qui ont facilité là, entre 1995 et aujourd'hui, 2020? Est-ce qu'il y a d'autres moments marquants?
Pas vraiment. Mais après ça, on a continué à progresser, comme je viens de l'expliquer. Mais il n'y a pas de... Bon, on a, comme je pense, toutes les fermes ont fait un effort sur la qualité des produits, etc. On a une, quand même, je pense, une bonne renommée. Là. Ça ne veut pas dire que tout le monde est à 100% satisfait de ce qu'on offre. Là. Mais on a une assez bonne renommée. C'est là-dessus qu'on a travaillé. Mais c'est pas, il n'y a pas eu d'autres événements
externes
là, comme tels. Là. Okay. En tout cas, pas à ma connaissance, où je ne l'ai pas senti. Nous, ce qu'on a senti, c'est écoute, on était peut-être 6-7 fermes au Québec là, qui faisaient des paniers au début des critères. Parce que les gens, puis il n'y avait pas autant de gens qu'aujourd'hui qui étaient intéressés aux paniers, mais il y avait une petite offre. Parce que c'est sûr que ça grossissait vite, là, les demandes arrivaient, on était capable de fournir, ça augmentait rapidement. Aujourd'hui, on est dans l'offre. La demande augmente, mais beaucoup moins vite que ça a déjà eu lieu. Et l'offre augmente. Mais je veux dire, il n'y a plus d'événements. Je ne vous sens pas d'événements extérieurs qui viennent changer ça. Là.
Mais il y a quand même un point de bascule entre le moment où il y avait peu d'offres, donc peu de fermes qui faisaient des paniers, et les efforts de médiatisation d'Équiterre faisaient que la demande augmentait. Donc la demande... surpassait en quelque part l'offre, mais il y a mené un point de bascule parce qu'aujourd'hui, on sent que l'offre, en tout cas, rapproche beaucoup plus la demande, oui. Sinon le dépasser. Je n'ai pas les statistiques quand même, mais...
Ben, je ne sais pas si on est capable de trouver vraiment...
Mais l'écart se resserre.
Oh, oui, l'écart est nettement resserré. Je me questionne, est-ce qu'il faut continuer la formule actuelle? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la garder. Je pense que j'ai déjà parlé à quelques moments à certaines personnes d'une autre vision où on pourrait être quatre fermes ensemble qui produisent moins de légumes chacune, mais qui produisent mieux chaque parce qu'ils ont plus de temps à mettre sur un certain nombre de légumes, ils peuvent s'équiper mieux, etc. Mais au lieu de faire 50 légumes par ferme, on en fait 10 ou 12, puis on produit... de façon plus efficace. C'est pas ça qui va augmenter les paniers, la demande de paniers, mais ça va diminuer notre charge de travail et puis nos investissements parce qu'il faut avoir 5 types de machines pour récolter, alors que parce qu'on a trop de sortes de légumes différents ou on le fait beaucoup de récoltes manuelles parce qu'il n'y a pas moyen de faire. Mais à un moment donné, la récolte manuelle, quand tu as 100 paniers, c'est une affaire. Quand tu en as 500, 600, 700, là, quand on parle de paniers aussi, c'est comme si tous les paniers seraient pareils, là, mais il n'y a pas un panier d'une ferme qui est pareil comme le panier de l'autre ferme. Là, parce que
en termes de grosseur, de composition.
C'est pas, y a rien de comparable. Là. Mais je sais pas si ça pourrait être une manière de d'ôter de la pression sur les fermes s'il y a moins de demandes qui se fait, en ayant moins de légumes à produire et peut-être à pouvoir vendre des légumes aussi, rentrer avec des ventes de légumes dans les magasins naturels. Il y a déjà des fermes qui le font, là, mais ça pourrait être un plus possible aussi.
Ouais, pour des jeunes ou moins jeunes, mais des gens qui démarrent en maraîchage bio, sans dire que tu leur donnes des conseils, mais qu'est-ce que tu leur donnerais, mettons, comme orientation en termes de mise en marché?
Oh. C'est difficile. Je veux dire, c'est sûr que les paniers, c'est une belle manière de partir. Ça demande de l'investissement, mais c'est pas non plus si exigeant, là. Conseil de mise en marché. Ils peuvent pas se concentrer sur une seule mise en marché, je pense. parce que tu deviens prisonnier de cette seule mise en marché-là. Et puis peut-être de... Ben, c'est ce que je viens de dire, là. Tu sais, au lieu d'essayer, si on fait 50 légumes, ça, si tu vas au marché public, c'est pareil aussi, t'essayes d'avoir la plus large gamme de légumes à offrir à ta clientèle. Et c'est peut-être d'arriver à dire, bon, mais moi, au lieu de faire une ferme qui fait 50 légumes, j'en fais 12, mais je t'associe avec d'autres fermes où ça même sur le même terrain, il y a d'autres personnes qui s'occupent de produire d'autres légumes. Et puis, on ensemble, on fournit un panier, mais on se fait moins... On bosse moins un peu chacun, ou on bosse dans des meilleures conditions que de tout faire nous autres-mêmes.
Combien d'heures par semaine en saison maintenant tu travailles sur la ferme?
40-50, oui. Ben, je pars, je ne le calcule pas. Je suis là à 7 heures le matin, puis je pars à 5 heures du soir.
5 jours sur 7? 6 jours sur 7?
6 et demi sur 7.
6 et demi sur 7?
Non, mais c'est 6 sur 7 en moyenne.
Puis, avant de passer le flambeau aux enfants, lorsque c'était toi qui gérais la ferme, proprement dit, ben avec Daniel, j'imagine, combien d'heures par semaine tu pouvais faire?
C'était 7 sur 7, là. Mais c'était peut-être 60, 70, mais je ne roulais pas. Puis c'était pas 3 semaines. On arrivait à... Enfin, mais tu sais, on avait... Qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'on... Là, on est 3, puis etc. On est 5, puis on était 2 pour faire la job avant. Mais la job est mieux faite dans chaque affaire. Tu sais, comme moi, l'entretien, quand j'étais tout seul, là, c'était... Puis j'avais pas beaucoup de temps, je le faisais, l'entretien mécanique, mais c'était plus limité que ce qu'on fait aujourd'hui, etc. Ça coupait. Mais il y a eu des périodes où on travaillait plus d'heures que ça, là, mais les... 7-8 dernières années, j'étais rendu 60-70 heures par semaine. C'était souvent le maximum. Là. Pas tout le temps, là, mais c'était souvent le maximum. Puis là, je dis aujourd'hui, je fais 40-50 heures, ça tourne plus autour de 40 probablement que de 50. Là. C'est dans la pire période, c'est dans le temps des fraises. Parce que là, tu cueilles 5 jours. Tu sais, tu cueilles 5 jours par semaine, puis il faut que le produit sorte parce que c'est très périssable, etc. Parce que là, on travaille semaine et dimanche parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Puis comme on fait de l'autocueillette la fin de semaine aussi, ça prend nous autres, nos champs sont loin. Bien, il faut transporter les gens, etc. etc. Là, parce que. On fait. Mais c'est ça. Mais je veux dire, moi, j'aime ça parce que ça me dérange pas. Tu sais, m'asseoir sur ma galerie puis regarder passer les mouches, ça m'intéresse pas.
Justement, ça me fait penser de plus en plus, en tout cas de ma génération, l'expression qualité de vie, ou est-ce que c'est un thème qui prend beaucoup d'importance, je pense, par rapport à l'époque de mes parents ou de mes grands-parents. En tout cas, on n'a peut-être pas la même perception de ça. Et puis, toi, comment tu te définirais? Ça veut dire
ah
quoi?
Non, c'est important. Mais pour moi,
oui, pour
je
toi,
veux dire, moi, cool. j'aime faire ce métier-là puis ce job-là. Je n'ai pas l'impression, m'en va pas, j'en souffre pas là, d'être là souvent. Là. Même j'en souffre plus de ne pas être là que d'être là. Parce que pour moi, ça fait partie de ma qualité de vie. Mais par contre, j'encourage mes enfants à ne pas faire comme j'ai fait. C'est dur, parce qu'ils ont tendance à faire la même chose que j'ai fait, d'être là tout le temps, etc. Parce que, oui, on n'est pas dans la même... Tu sais, moi, je lui dis, par exemple, vous êtes content de même, c'est correct, là. Mais si vous êtes là, puis vous bougonnez ou ça marche pas, bien aussi bien prendre votre journée de break, puis etc. Ben, c'est ça. Mais moi, personnellement, je veux dire, je suis célibataire, j'aime bien faire de la marche, etc. Mais quand j'ai fait ça une journée sur deux à fin de semaine, bon, ben, je suis correct, puis je suis prêt à aller faire d'autres choses. Là. Mais le jour que ça me tentera plus, m'arrêter, puis c'est tout, là. Mais ça, tu sais, la qualité de vie, là, c'est sûr qu'il faut pas te saigner dans ta job, etc. Puis, qu'est-ce qui fait aussi que je me sens à l'aise avec ça aujourd'hui, aussi probablement, là, je viens d'avoir un flash, c'est que c'est plus moi qui est responsable de tout. OK, la pression, je ne l'ai pas, là. Oui, elle me vient parce que naturellement, tu sais, je regarde, puis je vois telle affaire, il faut faire ci, il faut faire ça, mais je l'évapore assez vite, là. Mais ça aide à dire, oui, je continue à travailler, mais dans le fond, le stress ou tout ce qui nous tient, là, c'est plus moi qui l'absorbe, parce que c'est facile, là. Ça vient, si t'aimes le métier que tu fais, puis t'as pas de stress, mais c'est une certaine forme de qualité de vie de le faire plutôt que de rien faire, là. Bon, c'est un autre chose à faire, c'est une autre histoire. Mais pour les enfants, pour ceux qui sont là et qui embarquent le stress, c'est important, je pense. Là-dessus, je rejoins la nouvelle génération. Là. C'est important de se trouver du temps et de faire autre chose. Parce que pour baisser la tension.
À travers un métier qui peut être parfois intense, au moment que toi, tu avais la ferme, où tu la gérais, c'était quoi tes exutoires, tes façons de te ressourcer, d'évacuer du stress?
Non, pas bien, bien. On était là 7 jours sur 7, là, je veux dire. Bon, il y avait un peu de sport, là, mais c'est sûr que... étant deux avec la ferme, on était vraiment plus pris. Non, je faisais de la marche un peu, etc., mais c'était le travail. Là, c'est tout le temps ça.
L'acceptation, peut-être?
Bon, oui, l'acceptation. C'est ça. S'il faut trouver une formule, c'est que c'est l'acceptation. Là, mais il n'y avait pas de... il n'y avait rien de systématique, rien d'organisé. C'était... on a de la job, on l'a fait. Là. Mais là encore, moi, ça ne m'a jamais... je veux dire, personnellement, ça me dérangeait, tu sais, j'en souffrais pas ou j'ai pas eu l'impression d'en souffrir. J'en ai peut-être souffert, mais c'était pas conscient, là. OK? Mais c'est sûr que les relations de couple en ont souffert, par exemple, puis je te dis pas que certains jours, j'étais toujours un cadeau pour mes enfants aussi, là. Tu sais, je dis pas que tout était parfait, mais je voyais pas d'autre manière de fonctionner parce qu'il y avait trop de choses à faire.
Qu'est-ce que t'as aimé, puis qu'est-ce que t'aimes dans ce métier-là de maraîcher bio?
Ah, c'est bon. C'est une grosse question. Je ne me suis pas posé la question souvent là-dessus. Bon, moi, on est dehors, puis on vit avec une problématique de la nature, etc. L'agriculture, là, on a beau être bio ou pas, là, ça reste que... tu vis avec la nature, mais tu travailles aussi contre certaines tendances de la nature. Là. Puis il faut que tu fasses ça d'une manière la moins nocive possible pour la nature, si je peux me répéter. Là. C'est là que le bio est intéressant, là, mais il reste que... puis c'est ça qui est... Tu sais, entre Sartley, moi j'aime donner des coups de Sartley, etc., ça me dérange pas ou planter, j'aime ces aspects-là du métier. Mais la partie intéressante, je trouve, c'est de trouver des manières de tout... de faire fonctionner tout ça en étant le moins agressif possible pour le milieu naturel. Mais dès que tu fais de l'agriculture, tu changes de milieu naturel, là, parce que la nature en a pas les plans, puis elle n'en fait pas pousser un à toutes les 15 cm, etc. Là. Il faut pas non plus, en tout cas, rêver en couleur là-dessus, mais il faut en tenir compte que t'es là. Puis quand tu penses tes systèmes, c'est ça qui est intéressant.
Je me souviens une fois, tu m'avais dit, en tout cas, lorsqu'on enseignait ensemble, puis en début de session, on faisait un tour de table avec les élèves, puis on exprimait quelque chose que... des beaux moments qu'on avait vécu en agriculture, puis si je me trompe, puis que tu me corrigeras, là, mais il me semble que tu avais parlé là, de se promener le matin dans un champ de poireaux. Peux-tu me reparler de ça?
Ah non, mais c'est sûr que un des beaux moments, c'est quand tu montes puis tu regardes tes champs puis que tout est propre, t'es en lignée, le soleil se lève. Tu sais, c'est... Mais si t'aimes l'agriculture puis la culture de légumes, si tu trouves ça beau, c'est sûr que si t'aimes pas ça, ça sera pas trippant, mais tu sais, en fait, c'est l'œuvre accomplie. Là. Tu sais, tu regardes puis là, tu dis, bon, ben là, c'est... c'est à point. Puis il y a une beauté là-dedans aussi, là. En tout cas, à mon avis. Là. Mais c'est vrai, je pensais plus à ça, mais j'ai dit ça. Je ne l'ai pas dit rien qu'une fois. Mais ça, c'est une, comment je dirais, c'est une récompense. Parce que c'est aussi bon que prendre une bière. Puis c'est meilleur pour la santé.
Je suis vraiment contente d'avoir pu vous partager ça avec vous. C'est vraiment un moment historique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, si vous voulez avoir d'autres extraits de l'Odyssée bio, d'autres échos de l'Odyssée bio, restez branchés à notre balado parce qu'il va y en avoir d'autres, quelques-unes du moins, quelques autres collaborations spéciales. J'espère que vous avez aimé ça, puis je vous souhaite une excellente fin d'été.